Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Suite et fin de notre épisode sur la Lune. Nous n'avons pas du tout évoqué l'aspect historique des observations de la Lune ni son influence sur la culture. Pourtant, en tant que plus gros élément du ciel nocturne, la Lune a bien marqué les différentes cultures depuis la préhistoire. L'une des premières représentations possibles de la Lune est une sculpture sur une roche, nommée Orthostate 47, datée du 3e millénaire avant notre ère et découverte en Irlande. La première trace écrite de l'observation d'une éclipse solaire date de 1223 avant Jésus-Christ. Et elle a été retrouvée sur une tablette d'argile dans l'ancienne cité d'Ougarit en Syrie. Une inscription sur un os datant de 2136 avant Jésus-Christ est aussi suspectée d'être une trace d'observation d'une éclipse. Et elle a été retrouvée en Chine. La compréhension des cycles lunaires est un développement précoce de l'astronomie. Dès le 8e siècle avant Jésus-Christ, les astronomes babyloniens tiennent des archives systématiques des éclipses solaires. Et vers le 5e siècle, ils notent le Saros, la période de 18 ans qui régissent les éclipses lunaires. L'astronome chinois Shi Shen donne au 4e siècle avant Jésus-Christ des instructions pour prédire les éclipses solaires et lunaires. Archimède conçoit au 3e siècle avant Jésus-Christ un planétarium capable de calculer les mouvements de la Lune et d'autres objets du système solaire. De nombreuses sources latines le mentionnent, car le planétarium a été ramené à Rome. Ce planétarium est mentionné par Cicéron dans Res Publica. Je cite « Le planétarium était un objet extraordinaire qui montrait à chaque rotation la Lune qui se levait après le Soleil au-dessus de la Terre immobile, les éclipses de Lune et de Soleil à intervalles de temps voulus, sans parler des mouvements de cinq autres planètes connues, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. » Claudien ajoute en particulier que l'instrument était enfermé dans une sphère de verre constellée d'étoiles. Malheureusement, il n'est resté aucune description détaillée des mécanismes qui animaient le planétarium d'Archimède. La Lune est le sujet de nombreux mythes. Il y a un mythe chinois très célèbre à propos de cette femme qui vivrait sur la Lune. Il existe différentes versions du mythe, mais l'histoire de base, c'est que elle et son mari Ouyi ont obtenu des pilules d'immortalité. Chenga avala non seulement sa part, mais aussi celle de Ouyi. Comme les êtres immortels peuvent voler, Chenga, qui elle avait pris trop de pilules, s'est mise à flotter jusqu'à la Lune, où elle est restée coincée pour toujours, loin de son amour. Elle fait l'objet de beaucoup de poésie chinoise et elle est l'une des principales raisons de célébrer à chaque automne le festival de la Lune. Chenga aurait comme seul compagnon sur la Lune un lapin. En effet, on peut voir une forme de lapin visible par pareidolie sur la Lune. Souvenez-vous, la pareidolie, c'est la façon dont l'œil humain a de repérer des images qu'il connaît déjà dans une vision plus abstraite. L'histoire d'un lapin vivant sur la Lune existe dans de nombreuses cultures, notamment dans la mythologie aztèque et dans les folklores de l'Asie de l'Est, où il utilise un mortier et un pilon. Dans les mythologies européennes, grecques ou romaines, Séléna ou Luna sont les noms de la déesse de la Lune. Cette déesse est associée au dieu du soleil, Hélios pour les Grecs et Sol dans la mythologie romaine. Il voyage tout le long de la journée et elle reprend son voyage la nuit. Elle est généralement considérée comme une déesse passionnée qui prend de nombreux amants. Et elle représente le désir associé à la Lune. Les Aztèques, eux, associent à la Lune un dieu masculin, Tequistecalte. Il est le fils du dieu aztèque de la pluie et de la déesse des rivières et des lacs. À la suite d'un rituel destiné à faire de lui le cinquième soleil, il devient la Lune. En effet, il a hésité à se jeter le premier dans le feu sacrificiel, malgré ses somptueuses offrandes et après s'être porté volontaire. Il laisse sa place à Nanahualt, se consumant avant lui. Il se décide ensuite à le suivre, occasionnant la naissance de deux soleils. Les autres dieux, déçus de son acte de couardise, lui jettent alors un lièvre à la figure, diminuant ainsi sa luminosité et faisant apparaître pour toujours une ombre en forme de cet animal visible sur sa surface. Dans la culture européenne, la lune est souvent associée à la folie. Dans les temps anciens, les pleines lunes sont associées à des comportements étranges ou fous, notamment le somnambulisme, le suicide, les activités illégales, les accès de violence et bien sûr la transformation en loup-garou. Ces humains mordus qui, les nuits de pleine lune, se transforment en loups et deviennent violents. Pendant des milliers d'années, le médecin et les professionnels de santé mentale ont cru à un lien étroit entre la folie et la lune. Hippocrate, considéré comme le père de la médecine moderne, a écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ que, je cite, « Celui qui est saisi de terreur, de peur et de folie pendant la nuit reçoit la visite de la déesse de la lune. » Dans l'Angleterre du XVIIIe siècle, les personnes jugées pour meurtre pouvaient bénéficier d'une peine plus légère pour cause de folie si le meurtre avait lieu pendant la pleine lune. Sans aucun lien, la Lune est souvent liée à la fertilité. Le fait que les cycles féminins et le cycle de la Lune aient des périodes proches de 28 jours a favorisé ce rapprochement. On entend fréquemment, par exemple, que les accouchements sont plus nombreux à la pleine Lune. Les explications mettant en jeu la visibilité produite par la Lune sur les primates sont même avancées. Mais en fait, aucune étude scientifique n'a pu corroborer cette croyance. La forme physique de la Lune et la cause du clair de Lune sont également comprises très tôt dans l'histoire de l'astronomie. Le philosophe grec Anaxagore estime au VIe siècle avant Jésus-Christ que le Soleil et la Lune sont tous les deux des roches sphériques et que cette dernière reflète la lumière du premier. Par ailleurs, Démocrite suppose que les marques observées sur la Lune sont la conséquence de l'existence de montagnes et de vallées. Bien que les Chinois de la dynastie Han associent la Lune à une énergie assimilée au Qi, leur théorie de l'influence rayonnante reconnaît également que la lumière de la Lune est simplement le reflet du Soleil. Et Jin Fang note la sphérité de la Lune au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cependant, Aristote théorise à l'inverse dans Du Ciel que la Lune marque la frontière entre les sphères des éléments mutables, terre, eau et feu, et les étoiles impérissables de l'éther. Ce monde supralunaire est parfait. Et donc la Lune est une sphère lisse et inaltérable. La sélénographie, étude de la géographie de la Lune, ne débute qu'au XVe siècle. Et les premiers dessins publiés sont ceux de William Gilbert en 1603, à partir de l'observation à l'œil nu. Galilée observa que la ligne appelée terminateur, qui sépare les surfaces éclairées et ombragées de la Lune, était régulière au niveau des régions les plus sombres, mais irrégulière au niveau des régions les plus claires. Il en déduisit que la surface lunaire devait être montagneuse. En observant ces irrégularités du terminateur, il estime que les montagnes lunaires peuvent atteindre jusqu'à 6 km de hauteur. C'est un résultat s'opposant frontalement à la cosmologie d'Aristote qui affirmait que les corps célestes étaient parfaits. Ils devaient avoir des formes sphériques régulières dépourvues d'aspérité. Or, sur la Lune, Galilée repère bien ces irrégularités, de même qu'il nous montre qu'il est possible de le faire avec des instruments amateurs. En effet, la Lune s'observe très bien avec une lunette ou un télescope de débutant. En raison de la faible élévation du Soleil, les reliefs situés dans la région du terminateur sont éclairés en lumière rasante et voient leur profil accentué et bien délimité par leurs ombres grâce à l'absence de diffusion par une atmosphère. Et évidemment, la Lune est le seul astre du ciel en dehors de la Terre sur lequel l'homme a posé le pied. Durant les années 1950, la guerre froide bat son plein entre les États-Unis et l'Union soviétique, les deux superpuissances de l'époque. Cette guerre froide se traduit par des affrontements militaires indirects, comme par exemple la guerre de Corée, mais également par une course aux armements. L'Union soviétique prend de l'avance en mettant au point un missile balistique intercontinental, le R-7. Le R-7 est une fusée particulièrement puissante. Le responsable du programme, Sergueï Korolev, parvient à convaincre les dirigeants soviétiques de l'utiliser pour lancer le premier satellite artificiel. La mise en orbite de Sputnik 1, le 4 octobre 1957, a un retentissement mondial énorme. C'est une surprise pour le public américain et c'est vécu comme une atteinte symbolique à la supériorité américaine par les responsables politiques de ce pays. À cette époque, le programme spatial américain souffre d'une dispersion des efforts. Réagissant aux défis soviétiques, le président Eisenhower décide, le 29 juillet 1958, de créer une agence spatiale civile, la NASA, qui doit permettre de fédérer les efforts américains. La course à l'espace est lancée. Mais les soviétiques, qui disposent d'une avance importante et d'un lanceur beaucoup plus puissant que les fusées américaines, continuent au cours des années suivantes de multiplier les premières. Lorsqu'il arrive au pouvoir en 1961, le président américain John Fitzgerald Kennedy est, comme son prédécesseur, peu enclin à donner des moyens importants au programme spatial civil. Mais le lancement du premier homme dans l'espace par les soviétiques, c'est Yuri Gagarin le 12 avril 1961, le convainc de la nécessité de disposer d'un programme spatial ambitieux. Pour récupérer le prestige international perdu. Le président annonce le 25 mai 61, devant le Congrès, le lancement d'un programme qui doit amener les astronautes américains sur le sol lunaire avant la fin de la décennie, c'est-à-dire 9 ans plus tard. Lorsque le programme Apollo est lancé, la NASA vient tout juste de lancer son premier astronaute dans l'espace, dans le cadre du programme Mercury. La NASA lance donc deux programmes en parallèle d'Apollo. D'abord Gemini, dont le but est d'acquérir les techniques de vol spatial, puis un autre programme d'observation et d'exploration lunaire. En 68, Apollo 8 envoie un équipage en orbite autour de la Lune. Ils effectuent 10 révolutions et rentrent sans encombre sur Terre. Durant ce vol, ils réalisent de nombreux clichés de la Lune, dont le premier lever de Terre. Apollo 8 permet pour la première fois à un homme d'observer directement la face cachée de la Lune. L'une des tâches assignées à l'équipage consiste à effectuer une reconnaissance photographique de la surface lunaire, notamment de la mer de la Tranquillité, où doit se poser Apollo 11. Et puis, le grand jour arrive enfin. Le vaisseau, le module lunaire, son lanceur, Saturne, sont prêts. L'équipage, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins sont aux commandes. Et environ 3500 représentants des médias sont également présents, deux tiers venant des États-Unis et le reste de 55 autres pays. Sont en particulier sur place des centaines d'équipes de télévision. Il est en effet prévu que le lancement soit retransmis en direct dans 33 pays. Le vaisseau Apollo 11 a décollé grâce au lanceur Saturne. Il a orbité autour de la Lune avant de lâcher le module lunaire Eagle, qui a aluni, alors pas tout à fait à l'endroit prévu, mais qui a aluni quand même. 6 heures plus tard, Neil Armstrong et Buzz Aldrin sont prêts pour la première sortie extravéhiculaire de l'histoire. Malgré quelques difficultés techniques et météorologiques, des images fantomatiques en noir et blanc de la première sortie sont reçues et diffusées à au moins 600 millions de personnes sur Terre. Neil Armstrong effectue le premier pas sur la Lune le 21 juillet 1969 à 2h56 minutes 20 secondes UTC. Et il lance sa fameuse phrase.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Leur mission sur la Lune est à la fois scientifique, car ils prélèvent des échantillons, ils posent des instruments comme un sismographe, mais ils font aussi beaucoup de communication. Photos, caméras de télévision, appels avec le président Nixon, la course à l'espace, c'est aussi et surtout de la com. À l'issue de leur sortie extravéhiculaire, les astronautes ont récolté 21 kilos d'échantillons du sol lunaire. Ils ont parcouru 1 km et séjourné 2h30 à l'extérieur du module lunaire. Ils vont ensuite rejoindre le vaisseau Apollo, rester en orbite autour de la Lune, puis revenir sur Terre. Le trajet retour de la Lune vers la Terre ne dure que 2 jours et demi, contre 3 jours à l'aller. L'exploit de renvoyer des hommes sur la Lune n'a jamais été renouvelé jusqu'alors. Les Chinois s'y emploient avec les missions Chang'e, du nom de la déesse lunaire.